C'est à Vienne qu'il mourra, en 1929. Je suis né 2 ans après. Je n'ai donc pas connu Wolfgang Frankl, mon arrière-grand-père. Pourtant, j'ai le sentiment que quelque chose de lui m'a été transmis, comme les 2 bougeoirs que j'ai chez moi, faits de ses mains, que j'allume les jours de fête. Objets de mémoire qui m'accompagnent de leur lumière et qui font partie de mon histoire. Rien de ce qui va être montré, de ce qui va m'être donné à voir, appartient à ma mémoire. Mais va, je crois, porter la trace de ce qui m'a été transmis. Être confronté aux souvenirs qui précèdent ma naissance, et comment dire, oui, peut-être obliger les morts à être encore présents. Alors, puisque les souvenirs sont absents, à partir de bribes souvent invérifiables, de fragments dépareillés, je ne peux que porter un regard vers l'imaginaire. Et pour cette seule raison, devenir l'enfant que j'aurais aimé être, qu'un grand-père aurait tenu par la main, et l'entendre raconter tout en restant silencieux, ayant appris près de lui, même en ne comprenant pas tout ce qu'il aurait pu me dire, que le silence est aussi une manière de poser des questions.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
En 1950, de retour d'Hollywood où il s'était réfugié dès l'arrivée au pouvoir d'Hitler, Max Ophüls tourne à Paris La Ronde, délicieuse et cruelle adaptation de la pièce de théâtre d'Arthur Schnitzler. L'auteur viennois, dont les nazis interdiront les œuvres, était mort en 1931, juste avant l'horreur. Mais le réalisateur du film, censé se dérouler à Vienne en 1900, âge d'or de l'Empire austro-hongrois, lui sait très bien ce qui a eu lieu, ce qui donne une résonance particulière aux premiers mots prononcés par le narrateur, qui parle évidemment pour Ophüls. « J'adore le passé, c'est tellement plus reposant que le présent et tellement plus sûr que l'avenir. » C'est également en 1933 que les parents de Robert Bobert, alors âgés de 2 ans, quittent Berlin pour Paris, laissant en Pologne, en Allemagne, en Autriche, des êtres chers qu'ils ne reverront pas. Devenu écrivain et cinéaste après divers autres métiers, Robert Bobert a bâti une œuvre d'une force et d'une délicatesse rares, interrogeant les silences, la mémoire, l'écriture, pour que l'obscurité s'éclaire un peu, et pour nous raconter les histoires qui nous permettront de regarder présent et avenir sans trop trembler. Son dernier film, Vienne avant la nuit, dans lequel il fait revivre son arrière-grand-père, sortira mercredi prochain en salle, et un très beau livre l'accompagne aux éditions POL. Bonsoir Robert Bobert.
Bonsoir.
Est-ce que, comme François Truffaut, comme Georges Perec, comme Pierre Dumayet, que vous avez bien connu et avec lesquels vous avez travaillé, est-ce que, comme eux, vous croyez que les fantômes sont nécessaires à notre vie dans le présent ?
Je ne sais pas s'ils sont nécessaires, mais je crois qu'on en a besoin. Et eux ne le savent pas. Moi, je le crois, en tout cas, pour moi. Quand je dis qu'on en a besoin, en tout cas, moi, j'en ai besoin. Ils sont là, au début, à notre insu. Et on s'aperçoit que dès qu'on ouvre la bouche, ou qu'on tourne, ou qu'on prend une plume, ils ressurgissent comme ça, par bribes. Et on vit avec, et c'est un compagnonnage très agréable.
Ce film, Vienne avant la nuit, qui sort donc mercredi prochain en salle, à Paris et en province, c'est un film qui vous tenait évidemment terriblement à cœur. C'est un film très personnel sur les traces de votre aïeul, dont seule une photo était présente comme trace matérielle, mais qui est mort avant votre naissance. Donc, ces bribes de mémoire étaient assez fragmentaires. C'était donc une entreprise très périlleuse, très compliquée. Vous n'étiez pas sûr d'arriver au bout, en fait. Vous êtes parti sur ces traces un peu au hasard. Pas tant que ça, avec des livres, avec des récits, des morceaux de récits, dans un pays, l'Autriche, qui n'est pas très ouvert à cette mémoire juive.
Oui, c'est pas pour tout à fait par hasard. C'est, je crois, le dernier film que je fais. Et cet arrière-grand-père était déjà présent dans le premier film que j'ai tourné il y a 50 ans. Il y avait sa photo. Cette photo que j'ai toujours vue chez moi, il ressemble à un rabbin. D'ailleurs, les gens qui voient cette photo pour la première fois croient que c'est un rabbin, mais il ressemblait simplement aux juifs qui ont habité la Pologne à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et voilà, il a été toujours présent. Il y avait cette photo, il y a la photo de famille, 20 personnes qui l'entourent pour ses 75 ans. Où une partie de la famille qui était en Allemagne, une autre partie qui était en Pologne, est venue pour son anniversaire. Et c'était très bien, il est là au milieu des autres. Et c'est par cette photo que j'ai appris les noms des membres de ma famille qui n'étaient plus là, grands-parents, oncles, cousins, etc. Et effectivement, c'était pas sans risque, mais tout film se fait comme ça. Si on avance qu'avec des certitudes, ça marche pas.
Alors avancer vers l'Autriche, on sait ce qui s'y est passé, et pourtant.
Alors que l'Autriche ne représentait que 8% de la population du Reich, elle a fourni 40% du personnel des camps d'extermination. Et pourtant, le 27 avril 1945, les partis alors au pouvoir en Autriche proclamèrent dans une déclaration d'indépendance que le gouvernement allemand national-socialiste d'Adolf Hitler a entraîné le peuple autrichien impuissant dans une guerre sans but et irraisonnée qu'aucun Autrichien n'a voulu et n'a approuvé. Et en 1955, avec l'accord des Alliés cette fois, l'Autriche est officiellement proclamée victime du nazisme. Ainsi dédouanée, l'Autriche a été mise à l'abri d'une remise en question. Si je suis venu à Vienne, ce n'est pas seulement pour y retrouver la tombe de mon arrière-grand-père, mais aussi parce que le passé, ce passé-là surtout, a besoin de notre mémoire et les morts de notre fidélité.
Robert Bobert, dans cet extrait de votre film, qui est tout le temps soutenu par le texte que vous avez écrit et votre voix qui le dit, il y a ce questionnement qui n'est pas seulement un questionnement sur votre passé familial, c'est un questionnement sur notre passé, à nous tous. Et ce passé de l'Autriche, qui n'a jamais été vraiment assumé, et c'est d'ailleurs dans votre film qu'on apprend cela, qu'on a totalement oublié que les Alliés ont dédouané l'Autriche de sa responsabilité.
Oui, c'était au moment de la guerre froide. Mais quand je parle d'une Autriche oublieuse, les gens que je rencontrais, que j'ai mis en face des journaux de 1938...
C'est une scène terrible dans votre film.
Qui n'ont pas éprouvé le besoin d'en parler, même en le lisant, c'est qu'ils ne sont pas eux coupables de ça. Ceux qui sont coupables, c'est ceux qui ne leur ont rien transmis. Et c'est comme si cette histoire était une histoire étrangère, qui s'était passée ailleurs. Ils ne se sentent pas concernés. Alors que l'Allemagne a fait un travail sur son passé, pas toujours comme il aurait fallu, mais ce travail a été fait. En Autriche, il n'en a jamais été question. Et c'est, effectivement, il suffisait de se dire, tout parti confondu, hein, de se dire victime du nazisme, et d'être lavé de tout problème, et l'antisémitisme est quelque chose qui n'est pas né en 1938, lorsque sur la Heldenplatz, la grande place de Vienne, 200 000 Viennois ont applaudi Hitler. Mais déjà, au début du XXe siècle, il y avait un maire antisémite qui était là, et dont la statue trône encore au milieu de la ville.
Alors que les auteurs qu'on aime tous, Schnitzler ou Zweig, n'ont évidemment ni rue, ni place, ni tombe dans leur pays. Cette absence, ce silence d'ailleurs, Robert Bobert, il est lié intimement à l'histoire juive. Vous écrivez et vous filmez pour que ce silence aussi se brise parfois. Et déjà, en 1979, à Ellis Island, avec Georges Perec, ce questionnement était lié à l'histoire de votre arrière-grand-père qui y est passé.
Ce que moi, Georges Perec, je suis venu questionner ici, c'est l'errance, la dispersion, la diaspora. Ellis Island est pour moi le lieu même de l'exil, c'est-à-dire le lieu de l'absence de lieu, le non-lieu, le nulle part. C'est en ce sens que ces images me concernent, me fascinent, m'impliquent, comme si la recherche de mon identité passait par l'appropriation de ce lieu dépotoir où des fonctionnaires harassés baptisaient des Américains à l'appel. Ce qui, pour moi, se trouve ici, ce ne sont en rien des repères, des racines ou des traces, mais le contraire, quelque chose d'informe, à la limite du dicible, quelque chose que je peux nommer clôture, ou scission, ou coupure, et qui est, pour moi, très intimement et très confusément lié au fait même d'être juif.
Robert Bobert, cet extrait de votre film tourné en 1979 avec Georges Perec à Ellis Island, je voulais le faire entendre parce que je pense que cette phrase de Perec, elle est au cœur de toute votre œuvre. Questionner le silence de l'histoire juive, et faire remonter les voix, les visages, les profils. Il est présent aussi, ce silence, dans votre film. Quand on vous voit dans ces cimetières où il y a des biches, ce sont des plans d'une beauté extraordinaire. Le silence des rues de Vienne, le silence dans les cafés, les gens qui refusent d'entamer un dialogue sur cette histoire.
On peut aussi entendre un silence. Pierre Dumayet parlait beaucoup du silence, mais ce sont des silences qui ne sont pas des silences négatifs, ce sont des silences positifs. Lorsque je dis que un silence est aussi une manière de poser une question, ça veut dire on se tait pour mieux écouter la voix de celui qui parle. Et ces voix qui nous manquent, eh bien, on essaye de les imaginer. Le mot imaginaire dans mon film revient sans cesse, puisque presque rien ne m'a été transmis de cet arrière-grand-père, mais suffisamment pour qu'on fasse à partir de lui un film avec Perec à Ellis Island, puisque c'est lui aussi qui est le point de départ, et j'avais besoin d'en dire un peu plus. Au moment d'Ellis Island, j'étais pas encore grand-père, maintenant je le suis. Et j'essaie d'être avec mes petits-enfants le grand-père que j'aurais aimé avoir.
Cet homme, d'ailleurs, dont vous allez chercher les traces à Ellis Island, c'est un destin étonnant parce qu'il a déjà quasiment 50 ans quand il part, quand il essaye de se réinventer une vie. C'est un flerblantier de Galicie, très pauvre, et il part seul. Il se fera refouler à Ellis Island parce qu'il a attrapé un trachome. Et donc, on repoussait les immigrants malades, et il repart, et on ne sait pas pourquoi, il s'arrête à Vienne, Orto.
Il s'arrête à Vienne pour des raisons qui peuvent paraître drôles. On lui avait coupé la barbe. Pour un juif pieux, c'était très important parce que ne pas avoir de barbe à cette époque, c'était le signe d'un déclin de la foi. Il avait donc dépensé l'argent du billet. Parce qu'à l'époque, on partait seul, espérant gagner beaucoup d'argent.
Pour faire venir sa famille.
Pour faire venir la famille. Donc, ça n'a pas été le cas. Et s'est arrêté à Vienne au retour, le temps que sa barbe repousse. Ce qui, déjà aussi, à la limite, le début d'un roman. Et puis, une barbe se repousse pendant 3 jours. Et il a donc eu le temps de voir que Vienne, c'est une ville d'apparence beaucoup plus intéressante que la petite ville de Galicie orientale.
Thank you.
Je ne pense pas que mon arrière-grand-père ait le loisir d'être lié à la modernité de la Vienne du début de ce siècle. Cependant, si la lecture, et souvent la relecture de ce que publia ces auteurs viennois, m'a toujours paru si familière, c'est qu'elle se confond avec ce qu'il m'a, à son insu, si bien transmis. Je ne sais plus lequel de ces auteurs j'ai lu tout d'abord, ni quand. Mais je sais que j'ai peut-être compris qu'en les lisant, non seulement ils m'étaient familiers, mais que je retrouvais quelque chose de ce qui me relie à ma propre histoire. Alors, je n'ai plus distingué en moi le lecteur de l'arrière-petit-fils. Les moments passés dans cette librairie viennoise m'ont renvoyé une lettre que Franz Kafka a écrite à Milena après les 4 jours passés à Vienne, pendant lesquels ils furent heureux. Pourquoi n'avons-nous pas à Vienne tiré meilleure partie du temps? Pourquoi, par exemple, ne sommes-nous pas restés tout le temps à la papeterie? C'était un si beau magasin, et nous y étions si près l'un de l'autre.
Robert Bobert, après la sublime bande originale de votre film signée Denis Cugnot et Yom, qu'on entend dans votre film, là on vient d'entendre cet extrait où vous parlez des livres, ces livres qui vous accompagnent, parce qu'une des premières images de votre film Vienne avant la nuit, on vous voit débarquer à l'hôtel avec une valise bourrée de livres. Les livres familiers, Stefan Zweig, Arthur Schnitzler, Franz Kafka, Joseph Roth. Ces livres que vous dites très bien, vous savez parfaitement que votre arrière-grand-père ne les a sûrement pas lus, mais qui retracent cette Vienne de la fin de l'Empire austro-hongrois, qui était la capitale culturelle et littéraire de l'Europe. Il y vivait 200 000 juifs protégés par l'empereur François-Joseph. Donc cette Vienne-là, c'est celle aussi qui vous a fait grandir culturellement. Et le nom de Pierre Dumayet est très lié à ça, parce que vous avez travaillé sur les correspondances. Franz Kafka, bien sûr, Martin Buber, Arthur Schnitzler. Ces livres, en fait, ils vous parlent quand même de votre arrière-grand-père.
Oui, mais ces livres, c'est pas ce que j'ai appris pour faire le film. C'est ce que j'ai appris pendant toute mon existence, pratiquement. Dans les premiers plans, quand j'arrive en train, je viens avec des bagages qui sont les dossiers sur lesquels j'ai travaillé, les livres et les photos, bien sûr, que j'éprouve le besoin de punaiser au mur de ma chambre d'hôtel, et la musique, Schubert. Schubert fait partie de ces bagages. Mais dès que j'arrive à Vienne, les photos sont accrochées, les livres sont posés sur le bureau, et on n'entend plus Schubert. On va passer à autre chose. Mais ces bagages, c'est parce qu'ils étaient là, avec moi et en moi, que j'ai pu faire ce travail. Et voilà, on a parlé de Pierre Dumayet. Il faut continuer à parler de Pierre Dumayet. Il m'a appris à lire.
À beaucoup d'entre nous, il a appris à lire.
Oui.
On vous voit d'ailleurs avec le crayon, lui qui soulignait sans arrêt les phrases.
Il m'a appris à souligner un livre, souligner des mots. C'est extrêmement important parce que les souligner, ça veut dire qu'ils sont en nous. J'aurais pu dédier ce film à Dumayet en même temps. Parce que moi, on a fait sur Martin Buber, sur Schnitzler. La première fois que j'ai vu Vienne, c'était avec lui. J'aime pas tellement le mot aboutissement, mais voilà. Bon, alors je peux peut-être un peu le dire quand même.
Vous êtes arrivé à Vienne avec vos bagages, Robert Bobert, et dans cette émission, on en a des bagages qui sont des voix. On a entendu Georges Perec, voici Pierre Dumayet.
Je ne sais pas par cœur, malheureusement, cette phrase de Kafka dans son journal qui dit que il va mieux parce qu'il a lu Strindberg, mais c'est pas parce qu'il a lu Strindberg qu'il va mieux. C'est parce qu'il a réussi à se loger dans les bras de Strindberg et finalement il a glissé un peu puis maintenant il est assis. Et c'est une magnifique définition de la lecture finalement, ça, parce que c'est ça un peu, c'est quand même se réfugier dans les bras d'un protecteur. Les lettres de Kafka, les lettres de Flaubert même sont des écrits protecteurs pour le lecteur. Le plaisir qu'on y trouve est un plaisir, justement le plaisir d'être, semble, protégé. On a l'impression un peu idiote que si on a vraiment quelque chose à leur demander, ils nous le donneront. évidemment, est tout à fait illusoire, mais ça fait partie des illusions nécessaires. Je crois que on a envie d'être blotti dans un monde accueillant, et alors on lit.
Alors on lit. On vous voit arpenter les rues de Vienne, Robert Bobert, dans votre film « Vienne avant la nuit », et on vous voit à un moment dans cette synagogue vide de Vienne, c'est la seule qui reste. Et il y a une solitude incroyable dans ces plans du film. Vous n'êtes pas particulièrement croyant.
Non.
Et vous êtes là en train de retrouver des gestes, de dire les mots, de raconter au fond cette histoire.
Oui, on peut aller dans une synagogue comme on peut aller dans une église ou dans un temple sans être religieux pour autant. Mais parce que ce sont des lieux qui sont également témoins d'une histoire. Et cette synagogue où on me voit, où il y a très peu de gens qui viennent, sauf les jours de fête, bien sûr. C'est la seule synagogue de Vienne qui n'a pas été brûlée. Et pas par respect pour la synagogue, simplement elle se trouvait au milieu d'un pâté de maison. S'il a brûlé, le pâté de maison brûlait également. Voilà. Il reste des lieux de prière ici et là. Mais la communauté juive, au sens où on l'entendait, n'existe pas à Vienne. Il y a les chassidim qui se retrouvent par petits groupes que j'ai pu filmer parce que je parle et je comprends le yiddish. Et c'est une sorte de passe.
C'est très rare d'ailleurs que les enfants de cette génération qui a fui les pogroms et le nazisme, les parents parlaient yiddish. Très peu ont transmis le yiddish à leurs enfants. Vous, votre père a voulu que vous parliez yiddish ?
Oui, mon père me parlait en yiddish, ma mère me parlait en allemand. Et quand on est venu en France, bon, très vite on m'a mis à la crèche. Et je croyais naïvement, quand j'étais tout petit, que pour chaque objet il y avait trois mots différents. Et puis bien évidemment le français a pris le dessus. Le yiddish a été un petit peu oublié, et puis comme j'étais tailleur pendant 8 ans tout de même, de mon adolescence jusqu'à 23 ans, dans les ateliers, c'était juste après la guerre, il y avait beaucoup de juifs qui rentraient en déportation, ou même qui venaient de Pologne, et dans ces ateliers, il y avait une personne sur deux qui parlait en yiddish. Et voilà, le yiddish était là, parce qu'il y a des mots qui disent plus dans une langue que dans une autre.
Et puis surtout, il faut continuer à raconter les histoires, même quand on a oublié le début de l'histoire.
Lorsque le grand rabbi, Israël Baal Shem Tov, voyait qu'un malheur s'annonçait pour le peuple juif, il avait pour habitude d'aller se recueillir à un certain endroit de la forêt. Là, il allumait un feu, récitait une certaine prière, et le miracle s'accomplissait, révoquant le malheur. Plus tard, lorsque son disciple, le célèbre Maguid de Meserich, devait intervenir auprès du ciel pour les mêmes raisons, il se rendait au même endroit dans la forêt et disait « Maître de l'univers, prête l'oreille, je ne sais pas allumer le feu, mais je suis encore capable de réciter la prière. » Et le miracle s'accomplissait. Plus tard, le rabbi Moïse Leb de Sassof, pour sauver son peuple, allait lui aussi dans la forêt et disait « Je ne sais pas comment allumer le feu, mais je peux situer l'endroit, et cela devrait suffire. » Et cela suffisait. Là encore, le miracle s'accomplissait. Puis, ce fut le tour du rabbi Israël de Rishin d'écarter la menace. Assis dans son fauteuil, il prenait sa tête entre les mains et parlait à Dieu. « Je suis incapable d'allumer le feu. Je ne connais pas la prière. Je ne peux même pas retrouver l'endroit dans la forêt. Tout ce que je sais faire, c'est raconter cette histoire. » Cela devrait suffire. Et cela suffisait. Moi non plus, je ne connais pas les prières. Alors c'est aussi ce que je fais. Je raconte l'histoire. Pourtant, on le sait, cela n'a pas suffi.
Robert Bobert, on vous entend tout le long de ce film. C'est souvent très, très bouleversant, cette histoire-là particulièrement. Parce que, au fond, oui, bien sûr, c'est une histoire juive, très ancienne. C'est l'explication aussi de votre métier, de votre, j'allais dire, de votre destinée, raconter les histoires. Mais vous me le disiez en écoutant cet extrait, c'est aussi une histoire qui tenait beaucoup à cœur à Pierre Dumayet. Mais nous tous ici, on pourrait la reprendre. Nous devons être des raconteurs d'histoires.
Oui, oui, mais je crois qu'il y a toujours une sorte d'universalité dans ces histoires. Tout le monde peut se reconnaître dans des histoires pareilles. Enfin, dans les écoles de cinéma, on devrait dire aux élèves, écoutez cette histoire, c'est ce que vous devez faire pour que les autres puissent l'entendre et puissent la transmettre à leur tour.
Quand vous étiez à Vienne, seul, déambulant dans ces rues qui ne portent pas beaucoup la trace de cette histoire que vous avez entrepris de nous raconter, Robert Bobert, au fond, est-ce que vous étiez désespéré ou est-ce qu'au contraire, vous vous sentiez plein d'optimisme de dire qu'au fond de ce silence, de cette non-reconnaissance, allait surgir une histoire, une reconnaissance?
Je savais pourquoi j'étais là, et pour moi, il n'était pas question de quitter Vienne sans avoir trouvé la tombe. La première fois que j'y suis allé, il neigeait. Et j'étais tout seul dans cet immense cimetière où les tombes sont écroulées, sont des fragments de tombes qui en étaient envahis par les herbes folles. Et j'ai marché 4 heures dans la neige, et j'ai eu des moments où j'étais un peu désespéré. Et tout à coup, j'ai entendu du bruit à côté de moi, et je me suis retourné d'où venait le bruit, et il y avait 2 biches qui sont passées. Et je me suis dit, il faut que je les retrouve, elles doivent être dans ce film, parce que dans ce lieu où il n'y a que des morts, les seuls êtres vivants sont des animaux qui pour moi représentent l'innocence. Et puis, bon, on a réussi à les filmer, et quand je parle de l'exil, au lieu de montrer comme on pourrait s'y attendre, des gens avec les valises, des enfants dans les bras, montant dans les trains, etc. J'ai voulu montrer des bûches qui fuyaient dans tous les sens. Voilà, c'est cette innocence-là qui avait été condamnée.
Et puis il y a, et dans votre livre, et dans le film, Robert Bobert, cette citation d'Arlette Farge, qui est quelqu'un qu'on aime beaucoup, à l'humeur vagabonde, qui dit « Nous sommes tous constitués d'événements dont nous n'avons pas le souvenir ».
Oui. Le jour où j'ai lu ça, j'ai envoyé un mot à Arlette Farge parce que c'est... on ne le sait pas, on ne le dit pas parce qu'on ne le sait pas, mais il suffit de lire cette phrase pour se dire...
Pour comprendre notre rapport à l'histoire, oui, et au passé. Merci infiniment, Robert Bobert, d'être venu nous voir aujourd'hui. Je rappelle que ce magnifique film « Vienne avant la nuit » sortira en salle mercredi 29 novembre. À Paris, il sera dans 2 salles, au MK de Beaubourg et à l'Espace Saint-Michel. Mais évidemment, en France, dans les villes de France, il sortira également. Allez le voir, simplement parce que vous trouverez cette histoire dont vous êtes constitué vous aussi. Et le livre « Vienne avant la nuit » est sorti chez votre éditeur habituel, Robert Bobert, chez POL. Merci à vous d'être venu.
Merci
infiniment. Au revoir. C'est fini pour l'humeur vagabonde de ce samedi. Si vous le voulez bien, nous nous retrouverons samedi prochain aux environs de 19h20. J'aurai le plaisir de recevoir un abonné de l'émission, puisque c'est Nicolas Bouchot, qui remonte seul en scène pour un texte signé Thomas Bernard. Nous ne quitterons pas l'Autriche de sitôt. Mais bien sûr, France Inter continue, puisqu'après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Madame Julia Foyce et son Babel sur scène. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter, bien entendu.